La lampe de sainte Agnès était pleine d'huile. Et c'est pour cela que, quand bien même était arrivée la minuit, quand bien même sa lampe était sur le point de s'éteindre, c'est-à-dire sa vie touchait à sa fin, elle avait une réserve d'huile. Sainte Agnès, et nous allons voir ce que ça signifie, sainte Agnès avait appris de ses parents à craindre Dieu. Craindre Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est détester le mal. Qu'est-ce que le mal? C'est le péché. Vous voyez, alors mes très chers frères, je ne suis pas en train de vous faire le béaba du catéchisme, je sais que vous le connaissez, mais il est bon parfois d'entendre le béaba répété, comme ça ça tout se rafraîchit plus facilement dans son esprit. Haïr le péché, haïr le mal, c'est haïr le péché. Car il n'y a de mal, nous disent les auteurs, que le péché. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive de déplaisant peut être considéré comme un mal par rapport à un bien qui est une chose plaisante qui arrive, mais bien souvent les biens nous font du mal et les maux nous font du bien, d'une certaine manière. Bien souvent, une grande réussite nous pousse dans l'orgueil, et bien souvent, un échec nous pousse à l'humilité. Qu'est-ce qui nous aura profité? L'échec, pourtant, c'est une sorte de mal. Il n'y a donc de vrai mal, mes très chers frères, dans la vie du chrétien et pour le chrétien, que le péché. C'est-à-dire, comme dit saint Jean, le péché, c'est la transgression de la loi. La loi, qu'est-ce que c'est? C'est cet ensemble de commandements que Dieu nous a donnés, par lesquels commandements nous pouvons aller au ciel, par l'obéissance desquels nous pouvons aller au ciel, et sans lesquels, évidemment, nous ne pouvons pas aller au ciel. Sainte Agnès avait été éduquée dans la crainte de Dieu. Surtout, ne vous attendez pas à avoir une recette extraordinaire pour les parents de comment on fait les saints. Il faut dire telle oraison, il faut trouver tel livre avec telle prière dedans qui est très rare, qui a été écrite au Moyen-Âge, que sais-je, par quelque mystique inconnu. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si c'était ça, quel orgueil pour les parents qui auraient trouvé le manuscrit avec la bonne prière dedans, ils le diraient comme une formule magique, et puis quel orgueil, quel orgueil. Non, mes très chers frères, les choses sont à la fois beaucoup plus simples. Et ça nous arrange, c'est beaucoup plus simple, et aussi d'une certaine manière beaucoup plus commune, donc l'orgueil n'a pas grand-chose à manger dans cette recette que nous donnons. Sainte Agnès a été éduquée dans la crainte de Dieu, dans la détestation du seul mal qui existe pour l'homme, c'est-à-dire le péché. Tout ce qui était péché, tout ce qui était transgression de la loi de Dieu, était en horreur à Sainte Agnès. Voilà la première formule qui fait les saints. Vous voyez, ce n'est pas quand l'enfant sait répondre à ses professeurs, lorsqu'il sait sortir un argument tiré de je ne sais quel apologiste, etc. Tout ça c'est bien, tout ça c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui fait les saints. Ça, à la rigueur, ça fait, je l'ai déjà vu, ça fait des enfants insolents. Non, le saint, qu'est-ce que c'est? C'est celui pour lequel le péché est absolument hideux. Et pour lequel, avec l'aide de la grâce de Dieu et par un effort de volonté, dans lequel il ne tombera pas. Vous voyez, c'est tout simple. C'est tout simple et c'est à notre portée. Ne méprisons pas ce qui est à notre portée, mes très chers frères. Dans le fond, est à notre portée simplement ce que Dieu veut que nous utilisions. Sainte Agnès a été éduquée dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans la détestation du mal, c'est-à-dire du péché. Le péché, c'est ce que Dieu abhorre, ce que Dieu déteste, en raison de sa sainteté. Donc Sainte Agnès n'était pas non plus, n'était pas une petite humaniste qui n'aimait pas, que sais-je, les gaz à effet de serre, les pots d'échappement polluants, etc., comme on peut le voir aujourd'hui. Non, tout ceci n'a rien à voir avec le christianisme directement. Sainte Agnès détestait le péché, non pas parce qu'il nuit à la planète, si j'ose dire, enfin, petite plaisanterie bien entendu, Sainte Agnès détestait le péché, non pas même parce que celui qui pêche se comporte d'une façon irrationnelle, ce qui est vrai. Sainte Agnès, mais ce n'est pas suffisant pour faire un saint, ou pour faire un chrétien, commençons déjà par les chrétiens. Ce n'est pas, on peut ne pas tuer son prochain parce qu'on sait qu'on va provoquer un désordre et que ça va nous retomber sur la tête. Est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour avoir cela? Non, non. On sait très bien que si je ne tue pas mon prochain parce qu'il m'énerve, c'est parce que je ne veux pas avoir de problème avec les lois. Mais si je pouvais tuer mon prochain quand il m'énerve, en étant garanti que je n'aurais jamais aucun problème, et tout le monde tuerait son prochain. Le chrétien, quand bien même il saurait qu'il n'aurait aucun problème avec la loi en tuant son prochain parce que personne ne le saurait jamais, ne le fait pas. Pourquoi? Parce que cela déplaît à Dieu et parce que la sainteté de Dieu empêche qu'un chrétien se venge sur son prochain et qu'il le tue parce qu'il l'énerve. Vous voyez, la crainte de Dieu qu'avait sainte Agnès, c'était la détestation du mal, la détestation du péché à cause ou en raison de la sainteté de Dieu. Sainte Agnès avait donc reçu de ses parents non seulement, ça c'est les deux faces de la médaille de la crainte de Dieu, non seulement la détestation du péché et de tout ce qui s'y apparente, mais aussi la connaissance de la sainteté de Dieu. Elle savait qu'il ne fallait pas commettre des péchés parce que le péché c'est mal, mais aussi parce que le péché déplaît souverainement à Dieu qui est infiniment saint, infiniment bon, et donc infiniment aimable. Puisqu'une personne ne peut pas être infiniment sainte et infiniment bonne sans être infiniment aimable, évidemment. Donc vous voyez, le premier principe qui a fait que les parents de Sainte Agnès lui ont permis d'être ce qu'elle a été par la grâce de Dieu, c'est la crainte de Dieu, la haine du mal, l'amour de la sainteté, le respect pour la sainteté divine. Elle avait appris à ses parents, de même, positivement, à aimer Dieu comme son bien suprême et comme son rédempteur. Comme son bien suprême, ça va de soi, parce que en fait, il n'y a qu'une seule chose pour, il n'y a qu'un seul but pour lequel l'homme est fait, c'est Dieu. L'homme est fait, l'être humain est fait pour servir Dieu, et en servant Dieu, ce n'est pas simplement comme s'il servait le seul maître qui existait et que nous étions obligés de servir. C'est vrai dans un certain sens, mais c'est beaucoup plus encore que cela. Nous servons Dieu parce que Dieu a fait la nature humaine capable de trouver son bonheur unique dans le fait de servir Dieu et d'accéder à la récompense. Propter et rétributionem, dit le psaume, à cause de la récompense. Vous voyez, la récompense qui n'est autre que Dieu lui-même, la nature humaine est faite pour Dieu, puisque Dieu est la récompense surnaturelle de la nature humaine. Donc, elle aimait Dieu, elle avait appris de ses parents, non seulement à détester le mal, mais à aimer Dieu. Pourquoi n'ai-je pas dit dans l'ordre à aimer Dieu et à détester le mal. D'une certaine manière, on ne peut pas vraiment aimer Dieu sans déjà détester tout ce qui lui déplaît. Vous voyez, même pour être ami avec quelqu'un, vous allez essayer de rapidement de voir tout ce qui lui déplaît. Si vous savez que, avant de savoir ce qui lui plaît, par exemple, si, bon, même chez les païens, vous invitez quelqu'un, vous voulez être ami avec lui, vous allez savoir ce qu'il n'aime pas. Est-ce qu'il n'aime pas, je ne sais pas, il n'aime pas ceci ou cela, ben vous n'allez pas lui en faire quand vous l'invitez à manger. Ensuite, progressivement, vous allez savoir ce qu'il aime et vous allez pouvoir être plus précis dans les choses que vous allez lui faire à manger pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit content avec vous. Voyez? Donc, il faut commencer par détester le péché de telle sorte que nous ne fassions pas ce que Dieu déteste. Et ensuite, quand nous sommes très loin de tout ce que Dieu déteste, par l'habitude, alors nous pouvons aller plus en profondeur dans la positivité de l'amour de Dieu. Que faire pour aimer Dieu? Déjà, ne pas pécher. Et ensuite, certaines autres choses. C'est pour cela que Sainte Agnès, et ça c'est un destin particulier, tous n'ont pas forcément ce destin-là, mais Sainte Agnès était consacrée à Dieu dès son jeune âge, de telle sorte qu'elle était véritablement une vierge consacrée à Dieu. Voilà comment, pour elle, s'est manifesté cet amour pour Dieu. Donc Sainte Agnès a appris de ses parents à détester le péché. Sainte Agnès a appris de ses parents à aimer Dieu comme son bien suprême, je l'ai dit, et comme son rédempteur. Si l'on aime Dieu comme son bien suprême, il nous manque encore quelque chose. Si nous étions dans le paradis avant la chute, évidemment, nous n'aurions qu'à aimer Dieu comme notre bien suprême. Mais malheureusement, nous sommes de ce côté-ci de la chute. Donc il nous faut apprendre à aimer Dieu comme notre bien suprême, mais aussi comme notre Rédempteur. Vous trouverez, mes très chers frères, dans le monde, des gens qui ont une sensibilité spirituelle, qui ont un certain intérêt, même un intérêt très poussé pour les choses traditionnelles, et qui seront d'accord avec vous quand vous leur direz « la nature humaine est faite pour Dieu ». Ils vous diront « oui, c'est vrai, l'homme a un aspect divin ». Alors vous allez dire, entendons-nous bien sur les... Alors, mettons que tout le monde soit d'accord, l'homme est fait pour Dieu, l'homme est fait pour trouver sa béatitude en Dieu. Ils seront d'accord. Vous voyez où, jusqu'où peut aller le diable, jusqu'où peut aller l'amour-propre et la concupiscence. Mais si vous rajoutez, Et n'oublions pas que ce Dieu bien suprême ne l'est aujourd'hui que parce qu'il est notre Rédempteur. Alors ils vous diront, ah ben non, parce que non, quand même, le péché originel, le sacrifice du Christ, c'est tout ceci est très mesquin par rapport à Dieu. Et puis bon, regardez la grandeur d'Adam. La grandeur d'Adam, nous l'avons un peu perdue quand même. Donc, si nous aimons Dieu comme notre bien suprême, ce n'est pas encore suffisant. Il faut l'aimer, nous qui vivons ici, pauvres enfants d'Adam, déchus, nous, il faut l'aimer comme notre Rédempteur. Et Sainte Agnès l'aimait comme son Rédempteur, de telle sorte que lorsque à ce jeune homme, elle lui a décrit, c'est bien connu, toutes les richesses, toutes les pierres précieuses, les diamants, etc., dont son époux l'avait paré, l'autre s'imaginait que c'était un prince richissime qui la comblait de cadeaux. Ce n'était pas faux, mais spirituellement. Vous voyez, Sainte Agnès décrivait la grâce. C'est pour ça qu'on représente souvent Sainte Agnès revêtue des richissimes ornements des impératrices. Ce n'est pas par vanité, vous le savez très bien, mais c'est pour montrer toute la parure de la grâce surnaturelle dont le Christ, son Rédempteur, l'avait revêtue. Vous voyez, elle, à aucun moment, Sainte Agnès ne parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même comme n'étant rien et comme son divin époux étant tout. Et il est impossible d'interpréter les paroles de Sainte Agnès autrement que comme une louange de son Rédempteur. Vous voyez, elle a renoncé à sa vie propre, elle a méprisé les avantages temporels de sa beauté et de sa vertu, elle a renoncé à sa vie propre par amour pour le Christ, elle a donné sa vie par amour pour le Christ, comme le Christ a donné sa vie par amour pour elle. Oui, pas de la même manière, mais par amour pour lui. Si quelqu'un veut sauver son âme, il faut qu'il la perde. Donc, de ses parents, Sainte Agnès avait appris la crainte de Dieu, pour la sainteté de Dieu et la haine du péché. Elle avait appris l'amour de Dieu comme son bien suprême et de Dieu comme son Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme son Rédempteur. Elle aimait notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il avait sauvé d'elle-même, c'est-à-dire de la corruption, pour faire d'elle, par le baptême, une enfant de Dieu. Voilà le rapport qu'elle avait vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, Dieu n'était pas une cause à défendre, Dieu n'était pas ce qui fait notre gloire par rapport aux misérables païens qui n'ont pas Dieu, même si c'est notre gloire. Dieu était son Rédempteur, sans lequel elle n'aurait pas été meilleure que les païens qui se livraient à toutes sortes d'atrocités et d'horreurs dans le monde noir et désespérant des non-baptisés. Vous voyez, Sainte Agnès détestait le péché, Sainte Agnès aimait Dieu, elle aimait Dieu comme son bien suprême et elle aimait Dieu comme son Rédempteur. Elle savait qu'elle n'était rien et que Dieu était tout et qu'elle n'était quelque chose qu'en Dieu. Je vis, non pas moi, mais le Christ vit en moi, dit saint Paul, et c'était exactement ce que sainte Agnès pouvait dire. Elle avait, à cause de son jeune âge et de cette excellente éducation et des grâces que Dieu lui avait données, elle avait conservé, nous disent les auteurs, l'innocence baptismale, en étant d'une part préservée du monde, par l'évitement de sa fréquentation, et d'autre part, positivement, elle était nourrie de la parole de Dieu, comme on le voit chez d'autres saintes encore, qui fait la joie des chrétiens. Vous voyez, ses parents ne lui avait pas simplement donné une éducation morale, ce qui aurait été déjà très bien. Mais souvent, vous voyez, vous avez des parents, je pense à des parents païens ou des parents mécréants, qui donnent une forte éducation morale à leurs enfants, de telle sorte qu'ils savent se comporter, ils savent aussi éviter les mauvaises choses, etc. Mais par ailleurs, ce sont des parents qui laissent leurs enfants, et ça se comprend, fréquenter le monde. Seulement, leurs enfants ont une très grande moralité et ils fréquentent le monde parce qu'il faut bien se faire des relations, on vit bien dans ce monde-là, donc il faut être sociable. C'est une chose qui est bonne pour les païens, mais en réalité, qu'est-ce qui garde les enfants de ces parents-là de commettre des crimes, de commettre des choses trop graves qui risquent de nuire à leur carrière? Mais qu'est-ce que c'est? Saint Augustin nous le dit, c'est l'orgueil. Moi, j'ai de l'ambition. Je ne vais pas me ruiner ma vie à 17 ans en buvant comme un trou, en faisant la fête, etc. Non, je bois très peu ou je ne bois pas parce que j'ai une ambition. Vous voyez, je ne vais pas me laisser aller avoir toutes sortes d'aventures avec toutes sortes de gens parce que j'ai comme ambition de faire un beau mariage et je sais très bien que toutes ces choses-là risquent de mettre dans des situations assez embarrassantes et assez contraires à mes intérêts. Ça se comprend. Mais qu'y a-t-il de chrétien là-dedans? On n'a même pas besoin d'être baptisé pour penser comme ça. Les parents chrétiens font tout pour préserver leurs enfants de la contagion du monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils les enferment dans des boîtes, vous savez très bien, mes très chers frères, mais ils font tout pour éviter la contagion du monde, c'est-à-dire non seulement ils leur donnent une éducation morale chrétienne, mais encore, ils les conservent autant qu'ils le peuvent dans une sociabilité qui est une sociabilité saine et sainte. On ne peut pas, évidemment, comme dit saint Paul, toujours éviter tout commerce avec les gens du monde, sinon il faudrait vivre ailleurs qu'ils ne le vivent. Et d'une certaine manière, le monde commence chez le chrétien mondain. Le chrétien qui se laisse un petit peu aller à l'amour de soi et à l'amour du monde est déjà le monde par rapport, même s'il n'y avait qu'une société totalement chrétienne, il y aurait des poches de mondanité. Là n'est pas tellement la question. C'est que ce sont des parents qui ont préservé Sainte Agnès, ils ne l'ont pas laissé aller fréquenter des jeunes filles païennes, des jeunes gens païens, a fortiori, évidemment. Ce sont des parents qui lui ont donné, donc négativement, une grande protection. Encore une fois, le monde, les mondains disent « oui, mais alors ça va faire que les enfants sont complètement inadaptés à la société ». Ça dépend quelle société. La société des mécréants, certainement, et j'espère que Dieu les rendra totalement incompatibles avec la société des mécréants. Mais si c'est la société des chrétiens, de ceux qui aiment Dieu, alors ces enfants-là sont tout à fait capables de vivre dans la société des chrétiens, puisqu'ils sont eux-mêmes des chrétiens et pas des moindres. Vous voyez ? Donc n'ayons pas peur de ce fantôme qu'on agite sous le nez des parents, la sociabilisation. Apprenez à vos parents, à vos enfants à haïr le mal et à aimer Dieu, et vous verrez si ils ne seront pas dans une véritable normalité, moyennant évidemment qu'on ne fasse pas d'excès étranges, mais je pense que ça ne vous concerne pas, mes très chers frères. Donc, d'une part, évitement de la fréquentation des mondains, et d'autre part, parce que ce n'est pas tout. On tombe dans une sorte de déséquilibre lorsqu'on ne fréquente pas les mondains, ce qui est une chose excellente qu'il faut faire, c'est la base, c'est le béaba de la vie chrétienne, mais que finalement on se laisse ronger par sa propre mondanité. Quelle est la différence entre un chrétien et un mondain? C'est que l'un a reçu la grâce de Dieu pour ne pas céder à la tendance naturelle à laquelle l'autre cède et qui fait qu'il est mondain. Quelle est la différence entre un chrétien et un mondain? C'est que le chrétien n'est pas mondain parce qu'il arrive à vaincre le monde par la foi. La puissance qui vainc le monde, dit l'Écriture, c'est votre foi. Donc, vous voyez, mes très chers frères, c'est une chose que de se préserver de l'influence du monde, c'est une chose fondamentale. Mais ce n'est pas tout, parce que le monde, en réalité, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Je suis mondain si je me laisse aller à m'aimer moi-même plus que Dieu. Donc, pour éviter que le monde se retrouve à l'intérieur de la citadelle chrétienne, que faisaient les parents de Sainte Agnès? Eh bien, positivement, donc négativement, il a préservé du monde, et positivement, eh bien, c'est dit dans les Pères, positivement, et c'est une chose très commune, positivement, il faisait que Sainte Agnès était nourrie de la parole de Dieu. Vous allez dire, la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord l'Écriture sainte. Ça peut paraître tout bête, mais la recette de la réussite de l'éducation des parents de Sainte Agnès consiste en des principes tout simples, tout bêtes, qui sont des principes communs. La fréquentation de la parole de Dieu. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que ça signifie dans la pratique? Eh bien, ça veut dire que les enfants doivent entendre la lecture de la parole de Dieu. Lorsqu'ils savent lire, ils doivent lire la parole de Dieu. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils peuvent lire tout. Il y a différentes choses. Il y a des choses qui sont plus pour des adultes confirmés dans la foi et d'autres qui sont plus à la portée des enfants, ne serait-ce que parce que c'est moins intellectuel, c'est plus historique, que sais-je. Il y a toutes sortes de choses. Quand on voit l'éducation, par exemple, que saint Paul a donnée à sa fille, qui était une sainte, sainte Eustochie, était pétrie de l'Écriture sainte. Et c'est un motif que l'on retrouve partout dans l'Église primitive et puis dans l'Église subséquente, quand on voit la bonne éducation que les parents ont donnée à leurs enfants. C'est une chose que de compter sur la bonne morale qu'on donne aux enfants, c'est une chose que de compter sur la préservation du monde, toutes ces choses sont nécessaires. Mais il faut encore plus, il faut une positivité. Vous voyez, édifiez-vous les uns les autres par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Les enfants doivent apprendre à chanter la parole de Dieu, doivent apprendre à chanter notre Seigneur. Ils ne doivent pas être comme dans une sorte de préservation négative du monde, comme une sorte de digue qui retient l'océan, et derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de contrefort qui soutienne la digue. Au moindre vacillement, la digue s'effondre, et finalement, vous savez très bien comme est le monde et quelle fascination le monde exerce sur absolument tout le monde, c'est qu'on a beau avoir passé toute sa vie dans le christianisme et dans la préservation du monde, dans la mesure où le monde rentre dans le cœur, il remplit le cœur comme une inondation, et même si on a des années de retard sur le monde, c'est une question d'heures ou de jours pour se remettre à niveau. Vous voyez ? Donc, mes très chers frères, faisons très attention. Regardons la positivité du contenu, le contenu positif de l'éducation que Sainte Agnès a reçue de ses parents, l'amour de la parole de Dieu. Si elle a pu tenir ce discours aux mécréants, bien sûr, c'est par la grâce de Dieu. Mais une grâce de Dieu qui s'appuyait sur une œuvre antécédente de la grâce dans le cadre du lieu par excellence de la grâce qu'est la famille chrétienne. Cette société de baptisés, ce microcosme de baptisés, qui est en petit ce que l'Église est en grand, parce que c'est une petite partie de l'Église, et qu'il y a là un mystère très grand, représenté par le papa et la maman. Vous voyez, mes très chers frères, c'est absolument merveilleux de voir que les principes de l'éducation que Sainte Agnès a reçue de ses parents sont des principes extrêmement faciles à mettre en pratique par n'importe quel parent. Encore une fois, ce ne sont pas des il ne faut pas lui apprendre le syriaque pour qu'elle puisse réciter le paternoster dans la langue originelle, même avant le grec. Craindre Dieu, aimer Dieu, ne pas être préservé du monde, de sa fréquentation, être nourri de l'Écriture sainte et tout ce qui va avec, évidemment, les pères, certains pères qui peuvent être proposés à la lecture ou des enfants, bien sûr, la vie des saints, tout ce qui va avec, bien entendu. Vous voyez, c'est une formule qui n'est pas du tout onéreuse, qui n'est pas du tout au-delà de la portée des parents. C'est une formule mise au point, si j'ose dire, si vous me permettez de parler comme ça, par la grâce, de telle sorte que Sainte Agnès, à 13 ans, au moment où Dieu a voulu qu'elle soit confrontée à la grande épreuve qui allait faire d'elle une martyre, était entièrement saturée du christianisme. De telle sorte que ce qui est frappant dans l'histoire de Sainte Agnès, c'est que Sainte Agnès apparaît comme quelque chose sur lequel le paganisme, c'est-à-dire le monde en général, n'avait strictement aucune prise. Et encore une fois, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu accumulée pendant 13 ans. Une grâce spéciale pour les martyrs, car les martyrs reçoivent une grâce spéciale sur le moment, bien entendu, c'est une promesse de notre Seigneur, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Mais elle a reçu une grâce d'autant plus grande que la grâce s'est enracinée en quelque sorte, elle s'est posée sur quelque chose qui était déjà une œuvre de la grâce. Une éducation chrétienne, c'est véritablement une œuvre de la grâce. Et c'est, pour un enfant chrétien, une des plus grandes grâces qu'il puisse recevoir. Notre Seigneur peut-il favoriser, combler quelqu'un plus qu'en le faisant naître de parents chrétiens? C'est impossible. Donc nous disons, pour terminer, qu'il y a quelque chose d'intéressant à retenir dans cet assoupissement universel des vierges sages et des vierges folles. Écoutez ce que dit l'Évangile. « L'époux tardant à venir, elles s'assoupirent tous et toutes et s'endormirent. » Le sommeil n'a jamais vraiment un très bon symbolisme dans l'Écriture, puisque souvent il est pris comme un synonyme de la mort, de l'engourdissement, une sorte de prodrome de la mort éternelle. Mais nous voyons aussi notre Seigneur dormir. Nous savons qu'Adam a été plongé dans un sommeil lorsque le Seigneur Dieu a pris sa côte pour en faire sa femme. Toujours est-il que l'époux tarde à venir et elles s'endorment toutes. L'époux qui tarde à venir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a plusieurs sens, bien entendu, si ça dépend comment on l'aborde, d'un point de vue eschatologique, d'un point de vue simplement personnel. Du point de vue personnel, qu'est-ce que c'est? L'époux qui tarde à venir, c'est, après la conversion ou après le début de la vie chrétienne, après la naissance, après le baptême, c'est le temps qui se passe entre nos débuts dans la foi et l'heure de notre mort. Si Dieu nous fait la grâce de vivre très longtemps, on peut dire que l'époux tarde à venir. Nous attendons un temps indéfini, il est très défini par rapport à Dieu, mais indéfini par rapport à nous, puisque nous ne savons pas combien de temps nous vivrons. L'époux tarde à venir. Ça ne veut pas dire qu'elles commencent à faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'elles vont ailleurs. dans d'autres noces. Ça veut tout simplement dire qu'elle s'endorme. Et à mon avis, ce sommeil ici, cet assoupissement plus précisément, c'est décrit en quelque sorte le quotidien qui est un petit peu lassant, au sens où saint Paul dit « ne vous lassez pas de faire le bien ». C'est ce quotidien où on fait tout le temps les mêmes choses, la plupart du temps c'est des petites choses, le quotidien des mamans, le quotidien des pères, le quotidien des religieux, le quotidien des prêtres, que sais-je, le quotidien de tous les états de vie chrétienne, c'est-à-dire ce que nous avons à faire inlassablement et qui ne sort pas de l'ordinaire. C'est une sorte d'assoupissement qui n'est pas un mauvais assoupissement, mais on s'assoupit, vous voyez, leur lampe brûle, elles n'ont pas renversé leur huile, elles éteint leur lampe, c'est simplement qu'elles n'ont pas de choses extraordinaires à faire. Donc, elles s'assoupissent. Eh bien, il y a deux sortes, bien sûr, d'assoupissement. Il y a cet assoupissement des chrétiens, des bons chrétiens, qui est une sorte c'est le quotidien. Et puis, bien entendu, il faut en dire un mot rapidement, l'assoupissement, le mauvais assoupissement, c'était l'assoupissement des mauvais chrétiens. Un auteur nous dit ceci, « La plus grande de toutes les folies est de faire profession par le baptême d'aspirer à la vie éternelle et de négliger toute sa vie de s'y préparer par une vie chrétienne digne d'un enfant de Dieu et d'un co-héritier de Jésus-Christ, son Fils. » Si l'on peut dire, ce qui caractérise la vie de sainte Agnès, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de s'assoupir. Elle est née, elle a été baptisée, elle a été éduquée en chrétienne, en enfant chrétien. Elle est arrivée à un âge où on commence à sortir de la petite enfance pour entrer dans un état intermédiaire qui est encore une sorte d'enfance. Elle avait 13 ans. Et là, l'époux est venu. C'est-à-dire que sa lampe s'est trouvée allumée et pleine d'huile. Le propre de l'éducation chrétienne qu'a reçue sainte Agnès, et que tous les chrétiens, tous les enfants doivent recevoir, c'est de ne jamais rien faire qui soit incompatible avec la glorification et la sanctification du nom de Dieu. Même s'il y a un léger assoupissement du fait qu'il n'y a rien de bien intéressant à faire sinon le quotidien, la lampe reste allumée. Mais comment reste-t-elle allumée? La lampe, c'est l'âme en état de grâce, si j'ose dire, ou c'est la vie chrétienne. Ne prenons pas les choses trop au sens trop strict du terme, c'est la vie chrétienne, il y a des hauts et des bas, etc., mais c'est quand même la vie chrétienne. La lampe éteinte, c'est la vie d'un apostat. La lampe allumée, ben, c'est quand même la vie d'un chrétien, même si la lampe peut avoir une flamme qui est bien réglée, une flamme qui est mal réglée, une flamme mourante, c'est la vie du chrétien. Bon, mieux vaut qu'elle soit bien réglée et qu'elle soit bien vive. Mais c'est la vie du chrétien par rapport à la vie du chrétien qui est complètement mort. Mais comment faire que cette lampe soit constamment alimentée avec l'huile? Nous avons dit que nous reviendrons sur ce symbolisme de l'huile. L'huile, c'est la charité. Vous allez dire, c'est très beau à entendre, mais alors en mettre en pratique, comment? On ne peut pas inventer une réserve d'huile alors qu'on ne sent rien par rapport à Dieu, on a une certaine lassitude de la vie chrétienne, on a beau entendre saint Paul nous dire « ne vous lassez pas de faire le bien », on est quand même tenté de nous lasser de faire le bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous le dit. Comment faire pour avoir cet amour de Dieu qui renouvelle constamment et qui alimente constamment notre flamme, c'est-à-dire la vie chrétienne? Eh bien, mes très chers frères, posons-nous la question dans le cadre de l'éducation qu'a reçue sainte Agnès. Comment faire pour avoir tout le temps dans le cœur l'amour de Dieu? Encore une fois, vous auriez raison de dire si l'amour de Dieu est un sentiment, on ne peut pas inventer un sentiment. Un sentiment, en quelque sorte, on le subit. Ou bien je sens que j'aime Dieu, ou bien je sens que je n'aime pas Dieu. Eh bien, rassurez-vous, mes très chers frères, l'amour de Dieu n'est pas tellement un sentiment. Il peut se traduire d'une façon sensible, parfois, et c'est une belle chose. Mais pas toujours, pas toujours. L'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, pour un chrétien, de toujours agir dans le but, au moins, latent, implicite, comme disent les théologiens, le but implicite de la glorification et de la sanctification du nom de Dieu. Vous voyez, il y a des fois des moments où nous devons faire des choses explicitement pour glorifier Dieu, par exemple assister à la messe. Là, on ne peut pas se tromper, c'est vraiment, il y a le Saint-Sacrifice, on glorifie Dieu, nous sommes là, c'est une activité spéciale qui glorifie Dieu d'une façon explicite. Mais il y a dans la plupart du reste de la vie, des actions qui peuvent servir à glorifier Dieu d'une façon explicite, mais bien souvent implicite. Par exemple, prenons un exemple de base. Une maman qui prépare chaque jour les repas de la famille. Voilà une des choses qui représente peut-être une, ce qu'on appelle une habitude, une activité quotidienne d'habitude. Et plus, il faut manger, il faut bien que quelqu'un prépare à manger. Et c'est la maman qui prépare à manger. Eh bien, comment faire pour aimer Dieu dans ce cas-là? Peut-on, posons-nous la question d'abord, peut-on aimer Dieu dans cette activité? On va dire comment est-ce que ça se manifeste. C'est une activité qui peut, dans certains cas, être, par exemple, lorsqu'on imite Sainte-Marthe, quand on accueille les saints, on exerce l'hospitalité, qui peut être explicitement faite pour l'amour de Dieu. Voilà, il y a des chrétiens qui arrivent un peu à l'improviste, ils sont un peu, c'est un peu casse-pied, etc. Mais pour l'amour de Dieu, pour exercer l'hospitalité chrétienne, je vais, dit la mère, préparer un bon repas pour ces chrétiens qui viennent, pour l'amour de Dieu, parce qu'il le faut bien. Bon, là, c'est une façon explicite, elle le fait d'une façon explicite. Mais quand il s'agit simplement de préparer le repas de la famille tous les jours, même si elle ne pense pas forcément à qu'elle glorifie Dieu en faisant cela, elle le fait, pourquoi? Parce que c'est une activité qui, implicitement, est tout à fait capable de glorifier Dieu. Si la maman prépare chaque jour de sa vie, pendant, avec application et avec sincérité, le repas pour sa famille, parce que dans la reconnaissance de la famille que Dieu lui a donnée, du mari que Dieu lui a donné, des enfants que Dieu lui a donnés, et de la vie chrétienne qui est la sienne, alors elle fait quelque chose qui glorifie Dieu implicitement. Vous allez dire, c'est quelque chose qui est tellement ténu qu'on ne s'en rend pas compte. C'est vrai. Mais imaginez, et j'espère que c'est pour nous tous le cas, imaginez, mes très chers frères, que nous ayons banni de notre vie toutes les activités qui ne sont pas capables non seulement de glorifier Dieu explicitement, mais encore implicitement. Il ne reste plus, je prends des exemples stupides qui ne concerneront personne, évidemment, regarder la télévision, perdre son temps à des futilités. Je vous laisse imaginer. Imaginez qu'il n'y ait systématiquement plus aucune de ces activités qui ne sont pas capables, même implicitement, de glorifier Dieu. Et qu'il ne reste plus dans notre vie que des activités qui, pour banales qu'elles soient, sont capables, moyennant que l'intention soit droite, de glorifier Dieu dans chacune de leur occasion, chacune de leur occurrence, chacune de leur moment. Que la maman commence par couper les carottes, qu'elle les mette dans la casserole et ensuite qu'elle serve les carottes cuites à table, à chaque moment, elle a pu glorifier Dieu implicitement en faisant les choses pour l'amour de Dieu, en réfrénant des pensées, disons, de lassitude, de toutes sortes de pensées qui peuvent venir, même chose pour les autres états, bien entendu, hein, mais je continue avec cet exemple. Elle a pu, en préparant la soupe, glorifier Dieu du premier moment où elle a mis les pieds à la cuisine jusqu'au dernier moment où elle sert, pour l'amour de Dieu, à sa famille, la soupe qu'elle a préparée. Elle a pu glorifier Dieu. Imaginez que cette personne ne fasse rien que ce genre d'activité. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune activité qui soit incompatible avec la glorification de Dieu. Imaginez que cette personne prenne le temps chaque jour d'orienter son intention et de dire « Seigneur, tout ce que je vais faire aujourd'hui, je le ferai pour l'amour de vous, avec l'aide de votre grâce, et que chaque fois qu'une pensée étrangère vient de lassitude, de tentation, etc., elle la rejette. » Cette personne, tout en étant en quelque sorte assoupie, si je dis, c'est-à-dire tout en faisant la banalité du quotidien, vit une vie à une lampe, si j'ose m'exprimer d'une façon symbolique, dont la flamme est vive, claire, limpide, et elle éclaire les ténèbres qui sont autour d'elle. Vous voyez, nous tirons de Sainte Agnès, de la leçon de Sainte Agnès, des leçons, des principes qui ne sont pas typiquement le fait des martyrs, qui sont quand même un peu des exceptions, c'est l'élite des chrétiens, c'est nous tirons des principes qui sont à la base de la vie chrétienne tout court. Vous voyez, mes très chers frères, voilà quelque chose de très encourageant. Une dernière chose que Sainte Agnès a apprise de ses parents, c'est d'attendre le retour du Christ en faisant luire sa lumière dans les ténèbres. C'est-à-dire en accomplissant ses devoirs d'État conformément à leur nature et dans le cadre de l'ordre des choses et de la hiérarchie ecclésiastique. Évidemment, la question ne se posait pas tellement l'ordre des choses de la hiérarchie ecclésiastique à l'époque de Sainte Agnès, mais enfin, à notre époque, il faut s'en souvenir quand même, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent faire quelque chose pour Dieu, alors qu'ils ne font les choses que pour eux-mêmes, puisque Dieu ne leur a pas demandé. Mais nous parlons dans le cadre de ceux qui ont reçu le sacrement de mariage. Vous voyez, l'huile de la charité est un don de Dieu, et dès lors qu'on est baptisé, il faut le demander à Dieu et mettre à profit toutes les occasions qui nous sont offertes par la providence. Ne doutons jamais, mes très chers frères, de l'exaucement d'une telle prière. Dieu nous donnera toujours sa grâce, Dieu nous donnera toujours sa charité. Pourquoi ? Parce que nous sommes baptisés, nous y avons droit d'une certaine manière, nous avons cette sainte audace de dire au Seigneur, « Seigneur, je suis baptisé, je suis votre enfant, donnez-moi ce dont j'ai besoin. » Mais, mes très chers frères, défions-nous de nous-mêmes, défions-nous de la concupiscence qui nous fait toujours refuser la grâce, ou qui a une tendance à nous faire refuser la grâce de Dieu. C'est celle qui la concupiscence a horreur de la grâce que Dieu veut nous donner, et nous donne, parce que cette grâce nous fait changer la nature, notre nature, pour nous rendre plus conformes au Fils de Dieu. Donc, mes très chers frères, je terminerai en disant ceci. Ne redoutons pas notre faiblesse, car Dieu est fort. Craignons seulement de trop nous aimer nous-mêmes et de négliger le grand commandement qui résume toute la loi et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, pour l'amour de Dieu. Défions-nous de la paresse qui est la nôtre vis-à-vis de ce commandement. Demandons à Dieu toutes les grâces dont nous avons besoin. Transmettons ces principes, ces quelques principes qui ont fait que Sainte Agnès a été Sainte Agnès par la grâce de Dieu, grâce à ses parents, à nos enfants, et sachons que celui qui a commencé une bonne œuvre l'amènera aussi à sa perfection pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'aide de ce même Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Thank you.